Bonjour tout le monde, je suis Edouard Bonamour et comme chaque semaine, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Perds pas ma page. Perds pas ma page, c'est le podcast où l'on parle coup de cœur littéraire avec des personnalités que vous connaissez ou que vous allez découvrir. Mon invitée cette semaine est joueuse de tennis professionnelle. Vous l'avez peut-être vue aussi comme consultante pour France Télévisions sur le tournoi de Roland-Garros. Alizée Lim a sorti son livre « Éloge de l'inconditionnel » dans lequel elle raconte qu'elle est HPI, haut potentiel intellectuel. Alors HPI, ça ne veut pas simplement dire qu'elle a un QI plus élevé que la moyenne, comme elle le raconte d'ailleurs très bien dans son livre. HPI, ça veut aussi dire avoir une hypersensibilité envahissante, une activité cérébrale intense et parfois difficile à gérer. J'ai retrouvé Alizée dans un café en milieu d'après-midi. Perds pas ma page, c'est parti. Très bonne écoute à tous. Donc aujourd'hui, je suis avec Alizée Lim. Bonjour Alizée.
Bonjour.
Je suis très heureux de te retrouver ce matin. On se tutoie, ça te va ?
Oui, c'est beaucoup plus facile pour moi aussi.
Allez, on se tutoie, c'est parfait. Je suis très heureux. Merci beaucoup d'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait hyper plaisir. Tu es plus stressée que moi, ce qui me fait aussi assez plaisir.
Je ne sais pas si c'est du stress ou si c'est parce que je mets la barre haute et que j'ai envie de faire ça bien et que je me dis, mais je ne sais pas si je vais être à la hauteur de ce que j'imagine, de ce que ça peut être un podcast comme ça et ce que j'écoute. Et comme je te le disais tout à l'heure, je passe ma vie à écouter des podcasts d'Eric et Emmanuel Schmitt. Alors la barre est beaucoup trop haute pour moi.
Non, pas de stress. Pas de stress, ça va très bien se passer. En plus, en ce moment, il fait un temps pourri, donc c'est le temps idéal pour lire un bouquin. Donc on a hâte que tu nous proposes les livres dont tu vas nous parler. Je te rappelle juste le principe, je le fais à chaque fois. Tu m'as donc donné trois titres de livres, trois titres qui t'ont marqué, en tout cas que tu avais envie de partager avec nous, et tu vas nous expliquer tout de suite pourquoi. L'idée, c'est de faire connaissance avec toi aussi, c'est ça qui est très important, à travers ces bouquins que tu as aimés et que tu nous donnes aussi envie de les lire, et que tu me donnes envie de les lire. On a les trois livres sur la table. Par lequel tu veux commencer ? C'est toi qui choisis.
Alors, je rebondis juste sur ce que tu dis, je suis assez d'accord et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai un petit peu stress, c'est parce que je trouve qu'on peut révéler beaucoup de soi par ces lectures et c'est des choses que je n'irais pas partager. Je me disais, avant je ne serais jamais allée partager sur les réseaux sociaux ce que je lis ou mes lectures parce que j'ai l'impression que c'est hyper intime. Ouais. De montrer ce qu'on aime comme phrase et qu'on peut découvrir la personne à travers ces lectures.
Tu veux dire par là que je te mets dans une position très inconfortable, voilà. C'est ça ?
J'ai l'impression de me dévoiler. Dit-elle après avoir publié un livre « Raconte ta vie ».
Bah oui, c'est vrai en plus, parce qu'on est quand même ensemble pour l'éloge de l'inconditionnel, qui est le bouquin que tu viens de publier, donc on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que tu t'es pas mal livré dans ce livre-là aussi. Quoi. Ouais.
Alors, mon premier livre que j'ai choisi, c'est « Amélie Nothomb, métaphysique des tubes ». Amélie Nothomb, c'est incontournable pour moi. J'ai découvert Amélie Nothomb quand j'avais 16 ans, avec le livre « Antéchrista », et ça a été le coup de foudre avec son écriture. J'ai lu tous ses livres... d'affiner en fait.
Qu'est-ce qui te plaît dans son écriture ? Dans le ton de ses livres et tout ?
J'ai presque pas envie de répondre dans le sens où j'ai l'impression que mes mots ne seront pas à la hauteur de son écriture et de ce que je ressens quand je la lis. Je saurais presque même pas le décrire. Ce serait trop peu, mais l'humour, cette façon de dire tant en disant presque rien, j'ai l'impression que tout est fluide quand je lis, j'ai l'impression qu'elle me parle, j'ai l'impression que je sais pas.
Je suis d'accord avec toi, ce qui est marquant avec Amélie, enfin, en tout cas moi ce que j'aime aussi dans ses livres, c'est toujours drôle, cette espèce de touche d'ironie un petit peu dès qu'elle parle, puis c'est un peu cruel en même temps.
Exactement.
Aussi.
Exactement. Il y a tellement d'émotions en même temps qu'elle arrive avec presque rien, c'est souvent assez court, les livres se lisent vite. Les phrases sont simples, on se sent pas dépassé par les mots et à la fois tout était si bien choisi, si juste. Métaphysique des tubes. Alors je tiens à préciser que j'étais tellement fidèle à Amélie Nothomb quand je l'ai découverte et mon admiration était telle pour elle que pendant au moins 5 ans, j'ai l'impression que je crois avoir lu que Amélie Nothomb parce que je relisais ses livres en boucle et j'avais l'impression que je lui serais infidèle si je lisais autre chose.
J'espère qu'elle va écouter ça.
Et c'est souvent ce qui m'arrive quand je découvre une auteure que j'aime bien. Je lis ses livres. Bon, elle serait triste, hein. Je pense qu'elle me dirait qu'il faudrait que je m'ouvre à autre chose parce que c'est quand même triste de se fermer à d'autres auteurs magnifiques. Mais c'est souvent ce qui m'arrive quand je découvre un auteur que j'aime bien. Je lis tous ses livres et.
Ah ouais, c'est vrai ?
Ouais. Et je lis personne d'autre.
Compulsif un peu.
Ouais, et puis de fidélité, de loyauté.
Okay.
Voilà.
C'est beau ça.
Si j'aime la personne, je vais aller au bout de son œuvre. Okay. Voilà. Et Métaphysique des tubes, c'était pour moi celui le plus spécial, donc sur son enfance et son autobiographie de 0 à 3 ans. Et dans tous les livres autobiographiques d'Amélie Nothomb, ce que j'aime, c'est cette façon de faire une autofiction finalement, où on ne sait pas, on peut se demander ce qui est vrai, ce qui est faux, parce que c'est tellement un roman qu'on se dit, mais vraiment, c'est ce qui lui est arrivé, et puis la façon dont elle en parle. Et Métaphysique des tubes, je ne saurais pas l'expliquer, mais quand je partais en tournoi et que j'étais très triste après des matchs, il fallait tout le temps que je l'aie dans mon sac quand je partais 4 semaines loin de la maison, parce que c'était comme une bible à laquelle je pouvais me raccrocher et qui allait me faire sentir bien.
Donc, si... Parce que ça te rappelait un petit peu chez toi, parce que c'était...
Quand je la lisais, c'est comme si ça me rassure.
Okay.
Parce que je me dis, je pense que je me reconnaissais, c'est vachement égoïste comme lecture, se dire j'aime un livre parce que je m'y reconnais dedans.
Mais non, pas du tout, c'est génial, au contraire.
Que j'avais l'impression que je m'identifiais tellement à ce qu'elle écrivait que je me disais, si elle s'en est sortie et si elle arrive à être une auteure, une écrivain incroyable aujourd'hui et la femme qu'elle est devenue aujourd'hui, il y a moyen que je m'en sorte. Et donc dans les phases un peu noires que j'avais après des défaites, ça me rassurait. Je me disais, Amélie Nothomb a écrit ça et aujourd'hui elle a 40, je sais pas qu'elle a 45 ans et elle est ce qu'elle est, donc je vais pouvoir m'en sortir, je vais pouvoir surmonter cette défaite.
Ah ouais, du coup c'était comme un peu une lumière qui te guidait un
voilà.
peu comme ça. Ouais.
Et ça me permet aussi, grâce à ces mots, au-delà du fait de s'identifier ou pas, elle me permet tellement de m'évader dans les émotions et tellement c'est pour moi... de la beauté en fait, que ça a apporté de la beauté dans des nuits ou des soirées un peu noires.
Ouais, ok.
Voilà.
T'en parles d'ailleurs de ces soirées un peu noires dans ton livre, tu...
Oui. Est-ce qu'on va partir sur ce sujet?
Non, mais c'est chouette parce que ça veut dire que la littérature peut... En tout cas, ces bouquins, tu vois, certains auteurs et tout peuvent...
Ouais,
quand on dit que ça permet de s'évader, c'est exactement le cas, quoi. Je sais pas comment tu faisais, si tu lisais que quelques pages ou si tu te plongeais un peu dedans ou si tu...
Je sais même pas combien de fois je l'ai lu, parce qu'il y a peut-être plein de fois où j'ai lu le début et je me suis arrêtée, j'ai réussi à m'endormir, mais parce que j'étais apaisée. Mais je l'ai relu en entier pas mal de fois et je sais pas si tu dois le savoir, Camille Nothomb répond à tous ses courriers et que je lui ai donc envoyé une lettre que j'avais écrite pendant... beaucoup d'années dans ma tête, comme si voilà, je m'imaginais lui écrire cette fameuse lettre un jour, et un jour j'ai sauté le pas et je lui ai donc écrit cette lettre et je lui ai dit ce que je viens de raconter là dans le podcast, que j'emmenais son livre Métaphysique des tubes partout avec moi pour me rassurer.
Est-ce qu'elle t'a répondu?
Et elle m'a répondu, voilà.
On peut pas connaître la réponse.
Non, on peut pas connaître la réponse, mais bon, tous les gens qui connaissent le personnage savent extrêmement bienveillante qu'elle se souvient de tout le monde. Et donc, je lui ai fait signer ce livre, Métaphysique des tubes, alors que c'était la promo d'un autre livre. Je suis arrivée et elle m'a écrit la dédicace. Quelle émotion! Et je me suis dit, oh, c'est incroyable qu'elle ait su, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti. Enfin, il n'y avait pas mieux que d'écrire ça, parce que c'est exactement ça quand. Son livre, et quand je l'ai vu. Et à la fois, maintenant, j'ai dû dédicacer des livres et je me suis dit, ça se trouve, elle écrit ça à tout le monde. Parce que je me suis mise dans la peau et je me suis dit.
Non, en plus, je pourrais pas parler à sa place, mais je pense pas. Elle est quand même. Elle est attentive à chacun.
Exactement.
C'est ce qui la caractérise, c'est clair.
Exactement. Et donc, Métaphysique des tubes, pour revenir au sujet du livre, puisque j'imagine que je dois en parler, c'est donc son autobiographie de 0 à 3 ans, où elle raconte comment, quand elle est née, elle était un tube, d'où le titre Métaphysique des tubes, qui ne servait donc qu'à manger et dormir. Mmh. Et elle raconte comment sa grand-mère est arrivée et lui a tendu un bout de chocolat, et c'est là où elle s'est réveillée et que... on va dire, elle s'est mise en vie. En fait, elle a appuyé sur le bouton vie. Et donc, forcément, j'adore. Je n'ai même pas envie de mettre plus de mots là-dessus, parce que si c'est une image ou si c'est vraiment ce qui s'est passé, on n'a même pas envie de le savoir. Et je pense qu'elle se souvient de tout, j'ai l'impression, quand même.
Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'elle arrive à sublimer un peu la vie au quotidien. C'est vrai, quand on le lit, on se dit, moi aussi, j'aimerais bien m'en souvenir comme ça.
Exactement.
De mon enfance, un petit peu.
Exactement. Voilà, et puis on découvre aussi le Japon, puisqu'elle grandit au Japon, et c'est assez drôle. Elle a beaucoup d'autodérision sur le fait qu'elle se croit japonaise, qu'elle est très proche de Nishio-san, sa nounou japonaise, qui a eu un grand rôle dans son enfance. Donc voilà. une attache particulière à ce livre, pour toutes ces raisons.
Juste une question, Antécrista, quand tu l'as découvert à 16 ans, tu l'as découvert...
C'est ma mère qui me l'a donné à lire. Ah, je pense que ça pourrait te plaire, alors c'est une histoire de deux adolescentes. Donc c'est vrai que je l'avais 16 ans, donc ça correspondait parfaitement à cette histoire. Et ça a été un coup de foudre.
Parfait. Cool. On passe au deuxième roman.
Elle s'appelait Sarah, de Tatiana de René.
Elle s'appelait Sarah.
Elle s'appelait Sarah.
Tu te souviens comment tu l'as découvert?
Oui, je me souviens parfaitement. J'étais en Arizona, à fin 2016, dans ma chambre d'hôtel. Non, alors je dormais en housing aux États-Unis, mais je me sentais particulièrement seule. C'était la fin de saison.
On en revient toujours à la solitude des chambres
d'hôtel. La solitude des chambres d'hôtel. Et ce livre m'a sauvé ma fin de saison, parce que j'étais triste, j'en avais marre, j'ai envie que ça se finisse. Je jouais pas très bien, je crois. Et de pouvoir me plonger là-dedans et avoir un tel plaisir à lire cette histoire, je me souviens voilà, que ça a été salvateur. Et d'une manière générale, alors, j'ai toujours aimé les histoires qui parlent de la Seconde Guerre mondiale et de la déportation des Juifs. Donc on est en plein dans le sujet. Ensuite, vas-y.
Juste pour rappeler qu'elle s'appelait Sarah, c'est...
Ouais, tu veux que je raconte ou je...
Soit tu le racontes, soit si tu veux, je le redis en deux mots. Mais en gros, c'est deux histoires parallèles entre cette petite fille qui est donc Sarah, qui en 42 est déportée. Elle est arrêtée par la police française et elle fait une promesse à son petit frère de revenir le libérer.
C'est ça, en fait, elle l'enferme dans un placard en pensant le sauver. Et elle réalise sa bêtise petit à petit quand elle est déportée au Veldiv et qu'ensuite ses parents sont emmenés à Auschwitz. Mmh. Et là, elle se dit, elle comprend qu'en fait, elle ne va pas pouvoir retourner à la maison de sitôt. Et elle garde sa clé tout le temps avec elle pendant toutes les étapes. Et elle va ensuite, peut-être qu'il ne faut peut-être pas raconter la suite, je ne sais pas. Mais elle va ensuite réussir à s'échapper. Et tout le livre va tourner autour de ça, cette quête de retourner à sa maison et de délivrer son frère, même si elle comprend au fond d'elle que... Et il va sûrement rester enfermé. Et elle ne l'a enfermé qu'avec, je crois, un petit peu d'eau. Donc, elle doute qu'il va pouvoir survivre.
Un livre sur la culpabilité.
Et histoire en parallèle, je te laisse enchaîner.
Bah, c'est l'histoire de cette journaliste dont j'ai oublié le nom tout de suite, mais Julia, une journaliste
Julia
américaine
Germont.
Qui est mariée à un Français, voilà, exactement. Et donc, 60 ans plus tard, elle va en fait raconter, elle va retrouver l'histoire de Sarah et elle va. En parallèle, les deux histoires en parallèle.
Elle doit écrire un article sur le Veldiv et fait, elle connaît très peu le sujet et en se plongeant dans cette histoire, elle découvre tout ça, elle est horrifiée, elle est passionnée par cette histoire et à la fois, elle vient d'emménager dans un appartement qui appartenait à sa belle-famille, donc je crois au grand-père de son mari. Et au fil de ses recherches, elle découvre, que je ne dise pas de bêtises, l'existence de Sarah. Et je ne dévoile pas la suite, non. Je ne sais pas.
Voilà, non, on ne va pas en dire plus.
On va pas en dire
qu'est-ce qui t'a marqué vraiment dans ce livre quand tu dis il m'a sauvé ma fin de saison?
Alors, sauvé, mais quand je dis sauvé, c'est différent de ce que j'expliquais pour Amine Tombe. C'est juste que d'être passionné par quelque chose dans un moment où tu peux avoir un creux ou un vide, tout simplement, ça suffit. D'une manière générale, c'est pareil pour les films. Je dis pas j'aime ou j'aime pas. La seule façon pour moi de dire j'ai aimé ou j'ai pas aimé, c'est si j'ai ressenti des émotions. Si j'ai ressenti des émotions, que ça soit de la colère, que ça soit de la tristesse, que ça soit de la joie avec les comédies, c'est que ça a marché. Donc je peux que dire que j'ai aimé. Par exemple, Parasite, le film, j'ai été angoissée pendant tout le film, mais ça a marché parce que ça m'a prise dans cette anxiété.
Ouais.
Voilà, et elle s'appelait Sarah. J'étais tellement touchée, bah, c'est triste. C'est... Ouais, on va me dire que j'aime que les trucs tristes. Mais...
Bah non, mais ta fille
n'est
pas triste.
C'est pas triste. Mais pour les films, on a tendance à me dire ça, c'est pour ça que je dis ça.
C'est vrai.
Mais oui, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement humain. Et puis voilà, toute cette histoire de la Seconde Guerre mondiale me touche énormément. Et cette cruauté, j'ai une empathie extrême pour les gens qui ont vécu cette horreur.
Donc, tu l'as découvert par hasard, ce livre? Tu l'as acheté par hasard ou
Oui, j'ai lu en anglais, d'ailleurs.
D'accord.
Parce que j'étais aux États-Unis,
okay.
Sarah Ski. Et je pense que la France me manquait tellement que j'ai choisi une auteure franco-américaine.
Ouais.
Parce qu'elle écrit dans les deux langues et je me souviens que c'était instinctif, je me disais je sais pas, j'avais envie de prendre une auteure française et c'était pas facile d'en trouver là-bas aux États-Unis parce que j'étais allée dans une librairie, j'avais pas commandé sur internet
et je trouve ça génial. Donc t'allais quand même en librairie pendant les tournois et tout, t'arrivais à c'est quand même que t'as un truc avec la littérature, quoi. Ça te fait du bien de lire, non?
Ouais, ça me fait du bien de lire. Effectivement, ça me permet de m'évader et quand ça marche, je trouve que c'est incomparable, vraiment, comme sensation. Et j'ai beaucoup aimé aussi le schéma des deux histoires parallèles, parce qu'on est plongé dans deux univers différents, donc et puis le fait qu'elles se recroisent petit à petit, et c'est fait de façon tellement fine et bien amenée par Tatiana que voilà, j'ai trouvé ce livre extrêmement bien réussi, avec beaucoup de suspense à la fois, même s'il y a beaucoup de tristesse et d'émotion, il y a aussi une sorte de suspense, parce qu'on se demande prenant, est-ce qu'elle va y arriver, et puis on se demande comment les deux histoires vont se recroiser, donc ça donne envie d'aller au bout.
Donc, on passe au dernier livre, qui est Noé et moi, de Delphine de Vigan.
C'est ça. Alors, l'auteur dans mon cœur qui a suivi après Amélie Nothomb, c'est Delphine de Vigan. J'ai découvert Delphine de Vigan avec Noé et moi. Et j'ai donc fait le même process de...
Ah oui, t'as lu tous ces bouquins aussi ?
Voilà, d'accord, tous ces livres.
Ok, ça devient maladif du coup, on est sur quelque chose de... Voilà.
Non, en fait, je suis très heureux, je me dis « Oh yes !» Et je regarde le nombre de livres que l'auteur a écrit et je me dis « Oh yes, il y en a plein, je vais pouvoir avoir une quantité... » Parce que je fais confiance en fait en la personne. Et je me dis « Si j'aime son écriture, c'est que ça veut dire que tous ces livres-là vont me procurer autant de bonheur, donc je suis trop heureuse. » Donc si je voyais qu'elle avait écrit que deux livres, je me dis « Oh, ça va pas durer longtemps.
» Les belles histoires d'amitié qui se créent par les bouquins.
Donc Noé et moi, et donc voilà, ma deuxième histoire d'amour avec les livres, ça a été avec, non c'est pas ma deuxième dans ma vie, mais voilà, Delphine de Vigan. Et très vite, je dirais que mon livre favori d'elle, c'est Rien ne s'oppose à la nuit.
Okay.
L'histoire, elle raconte l'histoire de sa mère bipolaire. Et il y a également beaucoup de souffrance et,
qui est dur pour le coup, celui-là,
dans ce livre. Mais je l'ai lu il y a longtemps et je ne me sentirais pas à la hauteur d'en parler aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je t'ai dit Noé et moi, parce que je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je me sens plus à même d'en parler.
Alors justement, ça tombe bien.
Je crois que Noé et moi d'ailleurs est étudié à l'école maintenant.
Alors,
j'écoute aussi des podcasts de Delphine de Vigan, d'où mon stress également, mais j'ai entendu qu'elle disait ça. Noé et moi, c'est une très très belle histoire d'amitié. Entre une jeune surdouée qui s'appelle Lou Bertignac et qui doit étudier pour l'école sur le sujet des... Alors c'est un peu par hasard, elle est un peu dans la lune à l'école et on lui demande « ça va être sur quoi toi ton sujet ?» Et elle dit « les sans-abri ». Et on lui dit « ok, et tu comptes faire quoi ?»« je vais interviewer une fille ». Et en fait, je crois que c'est comme ça, si je dis pas de bêtises, elle doit donc se lancer dans ce sujet. Non, je crois qu'elle dit juste que ça va être sur les sans-abri. Et donc, elle tombe sur cette fille qui vit dans la rue.
Okay.
Et elle va pour l'interviewer pour son exposé d'école. Et en fait, à partir de là, se tisse un lien d'amitié extrêmement fort entre les deux filles, où elle va aller beaucoup plus loin que l'exposé. Elle va essayer de l'aider à la sortir de sa misère, l'aider à retrouver ses parents, sa mère. Et voilà, donc je pense que j'aime tous les livres qui explorent les liens humains et relationnels d'une manière générale.
Ok.
Quand je pense à Métaphysique des tubes, Elle s'appelait Sarah, Rien ne s'oppose à la nuit, et Noé et moi, c'est un peu un...
Et comment tu l'expliquerais justement ça ?
C'est quelque chose qui me passionne d'une manière générale, je pense que je réfléchis beaucoup à ça, j'analyse beaucoup les liens, les relations humaines, les émotions et tout ça, et après quand je le retrouve dans des histoires fictives ou autobiographiques... Ça me parle beaucoup, on va dire, ça me touche et ça me donne des idées aussi, via la fiction, pas un cours de psychologie, on va dire.
Ça te donne des idées parce que du coup...
Parce qu'il y a des idées intéressantes et je me dis, dans le fonctionnement humain.
Ouais.
Ça enrichit mes connaissances et ma compréhension du monde. Ouais. Voilà, ouais.
Et Noé et moi, tu l'as découvert comment, tu te souviens ?
Noé et moi... Je pense que
tu m'as dit
ma mère, c'est toujours ma mère qui me donnait. Ma mère est une grande lectrice, elle lit 4 ou 5 livres par semaine, donc c'est parfait. Elle me fait le premier tri et elle me connaît tellement bien qu'elle savait exactement quel livre me donner. Elle me l'a donné quand j'étais adolescente aussi.
Ok, ouais. Très bien. Ah oui, c'est grâce à ta mère un petit peu que tu as cette porte d'entrée vers la littérature.
Oui, exactement. Voilà.
Est-ce qu'on peut parler en quelques mots aussi de ton livre quand même ? Parce que c'est aussi pour ça qu'on se rencontre. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, justement, de te lancer dans cette aventure de l'écriture d'un livre ?
Alors, ma volonté à la base, c'était de partager sur la vie du joueur de tennis et la façon dont ça fonctionnait, ce métier, à force de parler à d'autres athlètes ou des personnes même qui connaissent bien le sport ou pas du tout le sport et qui n'avaient finalement aucune idée de la façon dont ça fonctionnait. Quand je leur expliquais... qu'on paye tous les voyages, qu'on est auto-entrepreneur, qu'on doit faire son staff, qu'on est chef d'entreprise finalement. Mmh. et plein d'autres choses et le... voilà, toute cette vie de joueur de tennis. Et en écrivant finalement, donc je me suis dit quelle est la façon la plus simple de le partager, ça va être d'écrire parce que j'ai besoin de personne et que je peux le faire de n'importe où. Et la seule différence c'est que j'allais être obligée de parler de moi et que je n'allais pas raconter les histoires des autres ou les choses que j'avais pu observer. Enfin, je peux raconter ce que j'ai observé mais pas des histoires intimes, je ne vais pas trahir les gens. Donc je me suis dit bon bah je vais écrire. Parce que j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit depuis que j'étais petite, mais je ne m'étais jamais lancée dans l'écriture d'un livre. Et finalement, en écrivant, c'est drôle parce que j'ai commencé à écrire sur mon enfance. Et je pense que je me suis fait embarquer par les nombreuses lectures des livres autobiographiques d'Amélie Nothomb, Métaphysique des tubes, Biographie de la fin, Le sabotage amoureux, ouais. Où elle raconte beaucoup son enfance. Et peut-être à force de les relire... Mon livre, je pense, de mon enfance, c'était déjà écrit et ça a été presque comme ça s'est couché sur papier tout seul. Et justement, je parlais des podcasts d'Éric et Emmanuel Schmitt que j'évoquais tout à l'heure. Récemment, je l'ai entendu dire quelque chose et c'était exactement ce que j'ai ressenti. C'est que finalement, il ne faut pas croire qu'on est en contrôle de ce qu'on fait quand on écrit. On est traversé par quelque chose et ça nous dépasse finalement. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Je voulais parler de tennis et finalement j'ai raconté mon enfance et voilà, après petit à petit j'ai fait le lien et je me suis dit que j'allais les mettre bout à bout pour parler des deux sujets.
T'écrivais où alors du coup? T'écrivais à l'hôtel?
J'écrivais dans les chambres d'hôtel, dans des carnets à la main, ouais, entre deux matchs, le soir dans la chambre, etc.
Oui, il y avait, ouais, un côté libérateur peut-être aussi.
Pas libérateur, je dirais, mais ça peut être très redondant la vie de tennisman parce que t'es tout le temps dans les chambres d'hôtel et parfois t'as des journées à tuer, à regarder des séries toute la journée dans la chambre, mmh, ou à lire. Et si ton match est à 20h le soir, il faut pas perdre d'énergie, donc tu vas rien faire dans la journée. T'es obligé d'organiser toute ta journée en fonction de ton match et finalement écrire, tu perds pas d'énergie, mmh, physique je veux dire. Donc c'était parfait pour moi.
Bah ouais, mais mentalement tu peux en perdre justement, ça peut être hyper crevant, non ?
C'est vrai, mais voilà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça se contrôle pas et quand j'étais lancée, donc ça s'est fait tout seul presque en 6 mois.
De l'avoir aujourd'hui dans les mains, ce livre, ça te fait quoi ?
Ça me fait, je suis évidemment fière de moi, alors je dois préciser que je me suis toujours dit que j'allais écrire un livre dans ma vie.
Ok.
Mais c'était un peu sous forme de rêve. J'ai toujours senti que j'allais écrire un livre dans ma vie, mais en même temps, j'ai commencé à avoir 30 ans et je me dis, mais quand est-ce que ça va arriver finalement? Ça va pas tomber du ciel, donc il va falloir que je m'y mette. C'est un peu comme ça que ça s'est fait aussi. Bon, bah, peut-être que finalement, c'est le moment. Et j'ai perdu le fil. Je sais plus quelle était ta question.
Je te disais comment de l'avoir dans les mains comme
ça.
Ah,
de l'avoir dans les mains. Donc j'ai eu un sentiment d'accomplissement, mais je suis très exigeante envers moi-même, donc il y avait presque un devoir, ouais, d'écrire un livre, d'écrire ce livre ensuite, donc de la fierté, mais très vite c'est devenu bon bah dépêche-toi d'en écrire un autre.
Ouais,
déjà. J'arrive pas à être fière très longtemps.
Bah, c'est un virus qui est super, non?
Ouais, je me dis tout de suite, mais faut en écrire un autre. Écrire un roman, c'est pas bien d'écrire que quelque chose sur soi. Il faut absolument. Comme si j'enlevais de la valeur à ce que j'avais fait pour. Mais bon, faut pas que ce soit négatif.
Tu te mets de la pression.
Un petit peu de pression,
on est sur
mais
une
voilà.
Une pression assez importante quand même.
je l'admets.
Bon, c'est cool. Pour terminer, j'ai toujours pour habitude d'offrir un livre à la personne que je rencontre.
Oh.
Et je t'ai acheté en attendant Bojangles, je crois qu'on dit comme ça, je veux pas dire de bêtises, de Olivier Bourdeau. Est-ce que tu l'as lu?
Non, je l'ai pas lu. Cool. Donc, bien vu.
Cool, parce que parfois je peux tomber sur quelqu'un qui a lu le bouquin et là c'est moins sympa. Mais du coup, c'est génial. Je me suis dit que ça allait te plaire parce que c'est une histoire d'une famille. C'est le fils qui raconte l'histoire. Il a une mère qui justement est un peu, comment dire, originale, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire un peu folle. Et
j'espère que c'est pas pour ça que tu t'es dit.
Non, je me suis dit que t'as une histoire de famille, tu vois, dans les relations humaines, c'est ce que tu viens de me dire, et je pense que ça va te parler justement. Et c'est très beau, c'est pas raconté à la manière d'Amélie Nothomb, mais dans le sens, c'est comment la réalité peut être un peu magnifiée, tu vois, pour la raconter. Il y a de très belles images qui te restent un peu en tête, en tout cas pour moi, qui me sont restées beaucoup en tête dans ce livre. Et puis cette histoire de famille, moi, m'a beaucoup aussi touché, la relation avec les parents, l'amour que tu peux avoir pour une personne alors que cette personne répond pas forcément au code qu'on attend un peu dans la société. Donc pour toutes ces raisons, j'ai vachement aimé ce livre qui a été énormément lu, donc je suis content que tu l'aies pas lu, tu vois, comme ça tu vas le découvrir. En plus, il y a un film qui est en train d'être fait en ce moment, une adaptation. Et donc voilà, en attendant Bojangles de Olivier Bourdeau. Merci. J'espère que tu vas aimer.
Merci beaucoup, vraiment, je suis trop touchée. Je vais le lire très rapidement.
En plus, c'est petit, ça se lit vite.
Oui, j'aime bien quand c'est petit et que ça se lit vite parce que ouais, je me mets beaucoup bien. De pression et aussi pour ça, et je me dis, oh, t'avances pas assez vite. Donc au moins, là, c'est parfait. La pression est plus basse.
Là, tu vas voir, en 2 heures, tu vas être prise dedans c'est bon. Et ça sera fait. Merci beaucoup, Olivier.
Merci à toi.
Merci beaucoup pour ce moment. J'espère que c'était pas trop compliqué.
J'espère que je m'en suis sortie.
Mais oui, c'était très bien. Merci encore, à bientôt. Je rappelle juste ton livre, donc L'éloge de l'inconditionnel. Qui est disponible aux éditions
Vuibert,
exactement. Merci encore, Alizée.
Merci.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous rappelle que le livre d'Alizée Lim, Éloge de l'inconditionnel, est disponible aux éditions Vuibert. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de cocher la case s'abonner sur vos plateformes d'écoute. Ça prend une seconde et ça vous permet de ne louper aucun épisode. Et ça, c'est chouette. Vous retrouverez toutes les infos sur les livres dont on vient de parler sur le compte Instagram et Twitter de Perpamapage. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, très bonne lecture.